Ça a été une grosse semaine dans le monde du sport. On a débuté ça fort dans la nuit de dimanche à lundi avec la transaction Max Pacioretty envoyée aux Golden Knights de Las Vegas. Hier, en début d'après-midi, c'était la transaction qui faisait passer Erik Karlsson aux Sharks de San Jose. Il y a eu beaucoup de sujets sportifs, mais il y a eu également beaucoup de sujets en lien avec la business du sport. Et on est chanceux dans le réseau Cogeco, on a l'expert avec nous, c'est Real Allende, que vous pouvez suivre sur Real Allende sur Twitter. Également, son podcast Focus tous les matins sur YouTube et sur SoundCloud. On te joint à l'instant. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci. Ray, je débuterai avec cette nouvelle qui sort hier et qui concerne un match hors concours du Canadien contre les Devils lundi au Centre Bell. On disait que StubHub avait des billets disponibles à 7 $ américains, évidemment, étant donné que c'est StubHub. Si on convertit, il y a beau avoir un taux de change, on arrive à 9 $ canadiens. 9 $ canadiens pour aller voir un match hors concours du Canadien, je pense que c'est du jamais vu dans les 15-20 dernières années. Puis ma question que j'ai pour toi, parce que tu es un expert et que tu as déjà travaillé au département marketing du Canadien, est-ce que ça peut faire peur à des gens ou les inciter à attendre la veille ou l'avant-veille des matchs cet hiver pour se procurer des billets?
Oui, bien, ça, c'est une grosse question, Dan, parce qu'il y a énormément d'enjeux juste dans cette question-là. D'abord, à la défense des Canadiens, je vais te dire qu'il y a plusieurs équipes de la Ligue nationale qui, aujourd'hui, ont des billets qui leur appartiennent, mais qui sont dans leur marché secondaire, c'est-à-dire StubHub ou Ticketmaster, qui sont dans les 5, 6, 7, 8, 9, 10 $
OK.
pour les matchs pré-saison. Okay. Alors, les Canadiens ne sont pas les seuls.
Parfait.
Bon, il faut comprendre aussi qu'un match pré-saison a zéro valeur, puis que les équipes de la Ligue nationale continue de s'entêter à exiger le plein prix d'une valeur d'un billet en saison régulière pour un billet, pour un match en pré-saison lorsque tu as 5 réguliers qui jouent. Donc, ça, c'est un peu un enjeu que la Ligue nationale va devoir possiblement réévaluer avec leurs équipes participantes. Parce que c'est sûr que si tu as les Capitals de Washington, tu as les Penguins de Pittsburgh, tu as les Maple Leafs de Toronto, des équipes en forte demande, bien là, tu es moins vulnérable. Mais la plupart des équipes n'arrivent pas à réconcilier le prix d'un billet régulier avec un prix de match pré-saison quand c'est une équipe, c'est même pas une équipe B, Dan, c'est une équipe D.
Oui.
Alors, c'est normal parce que ces jeunes-là doivent jouer, je comprends très bien. C'est juste que si j'étais un gestionnaire d'équipe, ça ferait longtemps que j'aurais dit, OK, time out, il faut qu'on modifie notre approche. Parce que les gens sont pas dupes. Ils comprennent très bien qu'il n'y a aucune valeur. Pourquoi les forcer? Alors, je comprends pourquoi ils le font. C'est parce qu'ils veulent pas avoir à s'entêter à vendre des billets pour des matchs qui n'ont aucune valeur. Donc, on force le détenteur. Ce que tu pourrais faire, simplement, c'est de le vendre à un prix différent. Tu le forces à l'acheter, mais il l'a au moins cher. Fait que là, il n'y a pas l'impression qui se fait rouler au coût de 200 $ pour un match. Alors ça, c'est vraiment le gros enjeu de ça. Le point suivant, c'est que effectivement, comme tu l'as mentionné, le marché secondaire te permet aujourd'hui comme consommateur de pouvoir être beaucoup plus sélectif, de pouvoir vraiment choisir à la pièce, à la carte, comme dans un restaurant, le choix du repas que tu veux, le choix du match que tu veux, et pas être forcé de prendre le repas offert comme le spécial du jour.
Okay.
Alors, parce que c'est là que le billet de saison te force à acheter tout,
oui.
Puis là, t'es pogné avec des matchs qui comptent pas ou qui sont pas mal moins intéressants. Donc, les gens aujourd'hui, là, ils maximisent le marché secondaire parce que c'est à l'avantage du consommateur.
OK. Mais pour la suite des choses, pour cet hiver, tu disais dans ton intro, Dan, stresse pas, il y a d'autres équipes qui ont des billets à 7, 8, 9 $ pour les matchs pré-saison. OK, mais puisqu'on s'intéresse un peu plus aux Canadiens et que le Canadien n'est pas une puissance de la Ligue nationale comme il l'a déjà été, ben moi, j'ai l'impression que le monsieur qui veut y aller avec son beau-frère, qui avait prévu y aller le 20 novembre, ben, au lieu d'acheter son billet au mois de juillet comme il l'a déjà fait, il va peut-être attendre au 18 novembre.
Absolument. Absolument. Et pourquoi? Pourquoi l'acheter à l'avance? Premièrement, de la façon dont les choses se déroulent des fois avec certaines équipes, tu peux avoir ton joueur étoile que ton jeune garçon veut voir depuis longtemps, Carey Price, par exemple, puis il est blessé, puis il est inactif, et puis là, c'était pour ça qu'on allait se déplacer jusqu'à Montréal pour le voir, puis il n'est pas là. Bon, mais là, je te rappelle aussi que la question des billets moins chers sur le marché secondaire, c'est pas juste en match pré-saison. Je suis allé voir là sur 2-3 sites ce matin, et le match du 11 octobre contre les Kings de Los Angeles, le match d'ouverture.
Oui.
Écoute, tu as des billets dans la section prestige. La section prestige, c'est les 5 ou 6 rangées à part la première rangée collée sur la banque.
OK.
C'est les cinq ou six suivantes.
Parfait.
C'est le deuxième prix le plus cher dans le Centre Bell. Le deuxième prix le plus cher, ça veut dire que ces billets-là coûtent au-delà de 200 $ par match. J'ai des billets au Centre Bell et le match le moins cher pour moi, c'est le billet, un billet dans les rouges A au centre de la glace à 210 $. Ça, c'est le match le plus ordinaire. C'est 250 le week-end, c'est 339 dans les matchs optimum pour le même billet. Là. Alors, le 11 octobre, j'ai trouvé une paire de billets à 163 $ canadiens. Ça, c'est le match d'ouverture de la saison régulière. Là. Ça compte pour deux points.
Oui.
C'est dans la section prestige, puis les billets valent plus de 210.
Wow.
Et ils sont à 163 aujourd'hui. Alors, même pour les matchs de saison régulière, aujourd'hui, tu peux trouver d'excellents rabais. Pourquoi, Dan? Parce que les gens, aujourd'hui, n'attendent pas. Ils savent très bien qu'ils ne veulent pas se faire prendre avec des billets dans trois mois, quand l'équipe ne performera pas. Ils préfèrent s'en débarrasser tout de suite. Ouf! C'est pas facile. C'est pas facile.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on est en bas du prix coûtant. On n'a pas vu ça souvent dans les dernières années, là.
Non, absolument. Puis en bas du prix coûtant, puis ça, c'est le match ouverture. C'est un match qui devrait être en demande.
Convoité, ben, oui.
Ben oui, l'affiche est 0-0.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de défaite. C'est ça que je veux dire, en tout cas.
OK. J'ai l'impression, puis je veux t'entendre là-dessus, j'ai l'impression qu'on est en train de créer un fossé entre les meilleures équipes de la Ligue et les pires équipes de la Ligue. On parlait d'une parité il y a quelques années dans la Ligue nationale. Tout le monde peut battre tout le monde un mardi soir. C'est encore vrai. Mais je vois des situations où des équipes accordent des contrats à long terme à des joueurs. Quand il reste un an au contrat, on est obligé de l'échanger. Les Islanders n'ont rien eu pour Tavares. Marc Bergevin a dû vendre Pacioretty du mieux qu'il pouvait la veille du tournoi de golf pour éviter qu'il se présente là avec son char sport puis qu'il réponde à toutes les questions des journalistes. Ottawa a fait la même chose hier avec son capitaine Erik Karlsson avec encore un an de contrat. C'est quoi cette nouvelle tendance-là? Puis est-ce que, sincèrement, le fossé va se creuser encore davantage dans les prochaines années entre les meilleurs et les pires?
Oui, et je vais t'expliquer ça de deux façons différentes. Par rapport au fossé, l'espèce de parité, c'est comme une courbe ascendante-descendante sur le marché boursier. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as trop de parité, il y en a un qui se détache du lot, ça crée une certaine irrégularité, et puis là, on ramène ça vers la parité, puis là, il y a d'autres équipes qui se sauvent vers le... C'est comme s'ils se détachaient du peloton. Puis après ça, pour les rattraper, tu comprends-tu, c'est toujours un peu en constante évolution.
Okay.
Fait que quand tu vois qu'au départ, avant qu'il y ait un cap salarial dans la Ligue nationale de hockey, il y a une dizaine d'années déjà, même une quinzaine d'années, ben à ce moment-là, ben tu avais les Toronto, les Rangers, les Blackhawks, les Canadiens, des équipes riches qui pouvaient dépenser trop pour sortir les plus pauvres, si tu me le permets, là, de l'équation pour la compétition pour les joueurs. Bon, OK, le cap salarial a réégaliser le terrain de jeu. C'est ça que c'est, un cap salarial, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir une fenêtre, un plafond puis un plancher. Faut que tu dépenses là-dedans. Mais là, même dans le plafond puis dans le plancher, Dan, ça veut dire que si le plafond est trop élevé puis des équipes qui n'ont pas les revenus nécessaires, je pense aux Panthers de la Floride, aux Hurricanes de la Caroline, des équipes de ce niveau-là, ben ils peuvent pas aller au plafond de toute façon. Donc forcément, les autres ont plus de marge de manœuvre. Et parmi les équipes qui sont plus vers le plancher que le plafond, les Sénateurs d'Ottawa. Alors, c'est pour ça qu'eux autres, ils ne pouvaient jamais envisager garder Erik Karlsson, parce que le marché des meilleurs défenseurs de la Ligue va tourner autour de 10, 11, 12 millions. Que ce soit Shea Weber, que ce soit Piqué Subban un peu moins, que ce soit Drew Doughty, que ce soit Brent Burns, ben là, Erik Karlsson, c'était son tour. Et les Sénateurs ne peuvent pas absorber un salaire de ce niveau-là, étant donné qu'ils ont littéralement, Dan, 25-30% des billets qui ne sont pas vendus dans leur amphithéâtre à Ottawa. Alors, il manque de revenus. Quand M. Melnyk a parlé cette semaine avec son petit clip qu'il a mis avec son joueur là, pour l'interviewer, qui a fait rire des gens, mais à la fin, il était quand même transparent, Melnyk. Il dit, nous autres, il faut qu'on génère des revenus. Eux autres, le problème des Sénateurs, c'est une question de revenus. S'il y avait les revenus, ils pourraient s'enrichir et peut-être compétitionner. Mais à chaque fois qu'il y a des contrats qui viennent à échéance, ils les voient venir. Il n'y a pas le choix. Écoute, il a quand même récolté combien de joueurs en retour? 4 joueurs réguliers, puis 4 autres choix, y compris des conditionnels.
Ouais.
C'est pas pire pour un joueur comme Karlsson.
Ouais.
Ces joueurs-là vont gagner moins cher.
Exact.
Et ils vont contribuer aux Sénateurs. Pendant ça, là, les partisans des Sénateurs sont tous déçus, parce que ça, c'est vraiment un joueur étoile.
Ouais.
Puis il est parti. Bon. Le dossier des Canadiens, Pacioretty, ça n'a rien à voir avec les finances. C'est simplement une question de synergie. Alors, effectivement, un autre problème avec un joueur étoile avec les Canadiens. Ben là, on va essayer d'avoir le mieux qu'on peut. Les Canadiens auraient pu avoir beaucoup mieux s'ils avaient décidé ça un peu plus tôt, au moment où on arrivait avant les séries, à la date limite des échanges et ainsi de suite. Mais là, ils sont allés à la limite. Ils ont quasiment dévalué le joueur eux-mêmes en critiquant constamment Pacioretty, à gauche, à droite, dans les médias. Puis tout ça, là, ça fait en sorte qu'il n'y avait plus le choix. Il était acculé au mur. Et là, ils ont eu un gars comme Nick Suzuki, qui a 19 ans, qui est tout un espoir, oui. Mais il a 19 ans.
Mais tu le sais plus que moi encore, le sport est devenu une business et c'est un spectacle. On faisait référence au monsieur avec son beau-frère qui va aller voir le match du 20 novembre. Revenons oui. à Carlson, Pacioretty, et j'ajouterais à ça, si tu me permets, Galchenyuk et même Piqué Subban. Ce sont des joueurs vedettes qui incitent les gens à dépenser de l'argent pour aller les voir jouer. Les quatre joueurs obtenus en retour hier à Ottawa et les quatre futurs choix de repêchage, il n'y a pas personne qui peut me convaincre que dans ces huit joueurs de hockey, il y en a un qui un jour va inciter les partisans d'Ottawa à aller voir les Sénateurs. C'est ça qui devient dangereux aussi.
Absolument. Mais tu sais, Dan, toi, tes auditeurs, vous comprenez là, l'industrie, là, parce que vous êtes capable de faire des choix comme consommateur averti. Si moi, je te présente un film qui s'appelle, mettons, Mission Impossible, puis je mets le nom de Tom Cruise comme tête d'affiche, puis Tom Cruise, il est deux minutes dans le film, les gens vont dire, attends un peu, là, moi j'ai acheté Mission Impossible parce que je veux voir Tom Cruise, je veux voir l'action, je veux voir deux heures de divertissement, bien sûr. Les gens achètent pour voir des vedettes. Ils achètent pas pour voir le directeur gérant ou le coach.
Exact.
Ils achètent pas juste pour voir le match puis l'adversaire. C'est une combinaison de tout ça ensemble. Si t'as pas de tête d'affiche puis de joueur, des stars, ben là, c'est sûr qu'il y a moins de conversion, de relation avec le jeune partisan parce qu'il n'a pas d'idole ou d'héros. Puis un jeune comme Suzuki, il marcherait dans la rue aujourd'hui à Montréal. Personne ne saurait c'est qui. C'est un jeune garçon qui a 19 ans.
Oui.
Je sais qu'il va être un bon joueur un jour. On l'espère. Mais il y avait Max Pacioretty, un marqueur de 35 buts en moyenne pendant les 5 dernières années complètes dans lesquelles il a joué. Encore une fois, je me dis, boy, là, on n'arrête pas de sacrifier des joueurs qui vendent.
Exact.
Qui vendent de l'émotion.
Oui.
Qui vendent des billets, qui vendent des chandails. Ah, il va y avoir deux braves qui vont s'acheter un chandail de Nick Suzuki le premier match, c'est sûr. Mais Pacioretty, c'est un joueur établi. André Markov, c'est un joueur établi. Radulov, c'est un joueur établi. Et je te parlerai pas du reste, comme Piqué Subban.
Non.
Donc, ça, c'est un choix philosophique que les Canadiens font de pas aller à la limite et de ne pas trouver des solutions de partenariat avec ces joueurs vedettes-là. Puis quand ça va mal, le moindrement, ben, au lieu de les gérer, on s'en débarrasse. Et après, on peint un portrait. Ouais, mais il a demandé d'être échangé plusieurs fois. Ben, moi, si j'étais Pacioretty, puis on m'écœurait depuis le début de la saison dernière, puis on mettait toutes les blâmes sur mon dos parce que c'est moi qui avais le C, ben, je serais pas mal désabusé, moi aussi. Fait que je veux pas prendre un côté là-dedans. Mais à un moment donné, c'est une business. Puis si tu vends pas d'attrait ou de perception de valeur, Dan, ben, ta business, elle vaut pas cher, mais aller ailleurs, consommer autre chose.
OK, tu as fait référence au plafond salarial, puis il me passe une idée par la tête en t'écoutant. Le plafond salarial en 2005, quand on est revenu de l'année où il n'y a pas eu de hockey, était à 39
oui.
millions. 39 millions,
oui.
Cette année, Ray va être à 80 millions. On a donc doublé oui. en 13 ans le plafond. Il y a une convention collective qui est, je pense, à échéance dans 2 ou 3 ans. Est-ce que ça te fait peur pour la suite des choses?
Ben oui, puis malheureusement, je vais te le dire, là, c'est ça qui est un petit peu un facteur pour une ville comme Québec. Parce que oublie là, les différents enjeux là, avec les partenaires, les propriétaires, puis la ville, puis la taille, puis le potentiel économique, puis tout ça. Oublie pas que dans les marchés plus petits, plus modestes, puis Québec en ferait partie, comme Winnipeg, comme Caroline, comme Floride, comme Phoenix, et ainsi de suite, ben, c'est dur pour eux, avec les revenus qu'ils voient à chaque année dans leur état financier, de compétitionner si le cap salarial n'arrête pas de monter. Parce que le cap salarial qui monte va forcer l'augmentation du prix moyen des billets. Puis des villes comme New York puis Toronto sont capables d'accommoder des billets à 125 $ en moyenne. Mais les villes qui sont plus petites ne peuvent pas faire ça. Même des villes comme Tampa Bay, où ils ont tout un club, ne peuvent pas avoir des prix moyens qui avoisine ceux des grands marchés. Donc, tu parles de parité puis de manque de parité. Voilà un exemple dangereux pour l'avenir des équipes de petits marchés. C'est que s'ils veulent compétitionner pour les gros joueurs puis les payer, ben, faudrait qu'il y ait les revenus pour les payer. Puis tu peux pas non plus forcer des marchés plus petits à payer les prix que les grandes métropoles comme Toronto ou New York peuvent payer.
Je comprends.
C'est dangereux dans tous les sens.
Je comprends très bien. Fort intéressant. Et gros merci. Bon week-end, Ray.
Salut, Dan. Bon week-end à toi.
À bientôt. Ray Lalonde, expert sport et business pour l'ensemble du réseau Cogeco. On lui parle chaque semaine dans l'avant-match.